France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
La muse a de la concurrence, disons-le. Opium, cannabis, héroïne, laudanum. Au moment de chercher l'inspiration, les artistes enclins au paradis artificiel semblent avoir l'embarras du choix. Et l'embarras tout court, hein, parce que la consommation de ces drogues, même par des artistes, fait des ravages, des hachichins aux surréalistes. Les artistes sont sous emprise.
Voici la drogue sous vos yeux.
Les drogues nous ennuient avec leur paradis qu'elles nous donnent.
Tout homme est juge, et juge exclusif, de la quantité de douleurs physiques qu'il peut honnêtement supporter.
Comme vous parlez drôlement, on voit bien que vous êtes instruit.
Singulièrement odorante, voilà donc le bonheur.
Vous n'avez pas encore dit votre nom.
Je m'appelle Satan.
Le bonheur avec toutes ses ivresses, toutes ses folies, tous ses enfantillages.
Velvet est avec nous. Bonjour Cécile Gilbert.
Bonjour Xavier Mauduit.
Écrit stupéfiant, drogue et littérature. C'est ici un recueil hein, que vous avez conduit, publié dans la collection Bouquins, avec, et moi ça m'a subjugué, la quantité d'ouvrages et d'écrits au 19e siècle, au 20e siècle, où l'on va retrouver ce thème et même ces mots, hein, des livres au titre opium, avec des noms de drogue.
Oui, c'est un corpus absolument considérable qui est parfois insoupçonnable. Mais bon, il y a une chose, c'est que c'est la prise de drogue en fait remonte sans doute à l'homme préhistorique et que c'est un invariant anthropologique. Ceci étant, la drogue littéraire et qui devient un objet, un sujet de littérature, ça commence fin 18e. Et évidemment, au fur et à mesure que des drogues vont s'inventer, des drogues vont être découvertes, des drogues vont être remise dans le circuit en fonction de critères historiques, de critères médicaux, etc. On a un gigantesque terrain d'expérimentation pour qui veut, les artistes, mais d'autres aussi, mais les artistes.
Oui, qui veut ou qui ne veut pas avec, c'est vrai, ces deux démarches. Hein. Ici, la drogue comme sujet de la littérature, et puis la drogue consommée par l'artiste pour créer, et puis parfois, et bien souvent d'ailleurs, ça se rejoint. Thierry Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être dans le cours de l'histoire. Vous êtes historien, chercheur en histoire des médias, avec ici toute la réflexion que l'on peut avoir autour du médicament, de la drogue. Vous avez particulièrement travaillé sur Antonin Artaud, hein, dans la pharmacopée d'Antonin Artaud. Qu'est-ce qu'on y trouvait d'ailleurs dans cette pharmacopée?
Surtout du laudanum, on en parlera peut-être, qui était un dérivé de l'opium, buvable. Ensuite, on aura un peu d'héroïne, un peu de cocaïne, mais à son dépens, systématiquement. Et puis le peyote et la mescaline.
Mais ce sont des médicaments aussi, il y a du médicament là-dedans.
Oui, pour lui, ce sont des médicaments. Voilà. C'est un être qui est malade, foncièrement malade, pour de multiples raisons qu'on pourra évoquer, et qui a besoin de ce laudanum de sidanum, pour être précis, pour vivre normalement, essayer de vivre normalement.
Oui, je crois qu'il faut bien, comprendre, en fait, quand on dit que les artistes, les écrivains, et voilà, prennent de la drogue, c'est qu'en fait, il y a toujours un usage, en général, qui est d'abord pharmaceutique. La plupart des écrivains vont prendre de la drogue pour des raisons médicales, des raisons de souffrance physique ou morale. Et puis, ils vont devenir parfois accros, ça dépendra de la substance, parce qu'il y a des substances qui provoquent aucune dépendance, il y en a qui en provoquent, comme la morphine, comme l'opium, etc. etc. Mais ensuite, l'usage qu'on entend, nous, au XXIe siècle, l'usage hédoniste, récréatif de la drogue, c'est quelque chose qui vient en général après. Il n'y a pas d'entrée de jeu, un usage récréatif de la drogue, surtout au XIXe siècle, où à la fin du XVIIIe, quand ces deux Anglais fameux, Coleridge et Thomas de Quincy, en fait, inaugurent la littérature des drogues, parce qu'ils sont eux-mêmes accros au laudanum, en l'occurrence, comme Artaud.
Ah ben, vous venez de le citer, Thomas Kuntzey, parce que là, on a parmi les premiers écrits sur ce que ça produit sur le corps, la consommation de drogue. Lui, c'est quoi? C'est plutôt de l'opium?
Alors, c'est du laudanum. Alors, c'est très drôle parce qu'on appelle ça... Il a écrit les confessions d'un mangeur d'opium. Donc, on se dit, comment ça, un mangeur d'opium? On les appelle des opiophages. Mais en fait, l'opium, qui en l'occurrence n'est pas de l'opium qu'on fume, qui est du laudanum, c'est-à-dire de la dissolution d'opium dans de l'alcool, ça c'est du laudanum et ça se boit, en fait, c'est des gouttes. Et alors que la dose normale pour supprimer des douleurs est environ de 150 gouttes quotidiennes, il arrivera à Thomas Kuntzey de prendre des milliers, presque 12 000 gouttes par jour, vous voyez.
C'est trop.
Donc il se met dans un état hallucinant, mais qui ne provoque pas d'hallucination, pardon, c'est un abus de langage. Il est complètement dépendant de cette drogue, et il écrit effectivement des textes qui sont les confessions d'un mangeur d'opium.
Ben justement, on va entendre une lecture de ce texte de Thomas Kuntzey, une lecture d'Abel Jacquin. Vous savez, parfois dans la vie, on est interrompu par des gens qui nous coupent la parole. Oui, enfin bon, sauf que là, écoutez bien, c'est pas n'importe qui, c'est Michel Foucault.
Le samedi soir est aussi pour les pauvres le moment du repos régulier, un repos qui introduit à un autre. Pour cette raison, je me sens toujours le samedi soir comme si moi aussi j'étais déchargé de quelques joues, comme si j'avais quelques droits à recevoir et à savourer le luxe de quelques repos. Pour le plaisir d'observer un spectacle que j'aimais tant, j'avais l'habitude, le samedi soir, après avoir pris de l'opium, d'errer à l'aventure sans faire grande attention à la direction et à la distance dans tous les quartiers, dans toutes les foires de Londres où se retrouvent les pauvres.
Abel Jacquin, nous vous coupons ici. Laissons la Kuntzey. Le réseau noir des rues l'a pris comme un filet, mais va le rejeter inlassablement, poisson hors de l'eau et qui ne sait plus respirer. Même le fil sombre et doré de la drogue ne peut le conduire à cette région où l'ivresse première du langage ne fait qu'une même chose, avec l'inversion systématique du monde.
Nous étions en 1963 avec cette lecture de l'ouvrage de Thomas Kuntzey. C'est quoi sa démarche à Kuntzey? Alors, vous avez entendu, il y a l'analyse de Michel Foucault. Quelle est sa démarche ici? C'est qu'il est surpris qu'une substance extérieure puisse avoir autant d'effets sur le corps?
Oui, il y a effectivement de ça. Il est surpris surtout, au fur et à mesure que le temps passe, par l'addiction qui va se mettre en place et la difficulté à en sortir, à s'en extraire. Et pourtant, il a des informations, puisqu'il évoque en particulier les ouvriers dans les usines qui abusent de l'opium, mais malgré tout, il subit la contrainte de ce produit. Alors, il utilise parfois de l'opium brut et parfois du laudanum. Et le laudanum est plus intéressant parce que ça lui permet de calculer les doses plus finement. Et effectivement, les doses sont astronomiques et probablement peut-être exagérées pour l'écriture de son ouvrage, parce qu'on se demande comment il a pu survivre avec de telles doses. Donc, son récit lance véritablement ce processus littéraire. C'est vraiment le texte de Kuntzey qui est à l'origine de tout ça, puisque pour parler du domaine français, ça sera ensuite Musset qui va traduire plus ou moins bien le texte de Kuntzey. Et ensuite, on retrouvera une autre traduction avec commentaires chez Baudelaire, évidemment, et les paradis artificiels dans la seconde partie.
Et il faut dire que Baudelaire sera particulièrement sensible au texte de Kuntzey, dans la mesure où Baudelaire, dont on pense toujours qu'il est un thuriféraire de la drogue, ne l'est pas du tout, mais il se trouve que lui, pour des raisons de souffrance morale, physique, de spleen et d'angoisse, est un adepte du laudanum. Il en prend, mais il n'aime pas qu'on le sache, et il veut pas qu'on le sache, il a un peu honte de cette assuétude, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le laudanum, ça coûte moins cher que de la bière ou du gin. C'est-à-dire que c'est très facile d'accès. Donc on comprend aussi que c'est très important que le produit soit à la fois pas cher et très facile d'accès et sûrement pas prohibé. Donc ça serait comme un peu la même chose pour l'éther plus tard. C'est-à-dire qu'on peut s'en acheter comme ça un flacon comme on achèterait du Coca-Cola, quoi.
Il n'y a pas si longtemps encore, on pouvait acheter de l'éther, pour quelques dizaines d'années maintenant.
Je m'en souviens, oui, tout à fait.
Bon, on se souvient tous, cette odeur absolument incroyable de l'éther qui était dans l'armoire à pharmacie, qu'il ne fallait surtout pas toucher, mais ça faisait tourner la tête très vite.
Mais c'était bon.
Mais on a ici quelque chose que vous soulignez, et c'est très important, c'est le contexte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prohibition de la drogue, il n'y a pas de législation. Cette drogue littéraire que nous évoquons, nous allons la retrouver aussi dans une autre littérature. C'est la littérature médicale, en fait. Et ce sont les deux domaines dans lesquels on voit mentionner ces différentes drogues.
Oui, c'est d'abord dans la littérature médicale, je dirais, où on a des textes absolument incroyables qui sont soit des thèses, soit des essais écrits par des médecins qui font des expériences sur... en particulier ce qu'on appelle les aliénés, pour voir les effets des différentes drogues. Et ce sera le cas de Moreau de Tours, en particulier, qu'on va évoquer, qui écrivent et décrivent les états un peu seconds de toutes les personnes qui consomment de ces substances. Et même quand on regarde les paradis artificiels de Baudelaire, la première partie sur le haschich est très clairement... plagié, il n'y a pas d'autre mot, sur un ouvrage fondamental de la pharmacie française qui s'appelle L'Officine de Dorvaux, qui est et même encore plus fort. Il semblerait que Baudelaire ait pensé à écrire le nom de Dorvaux pour justifier ses informations, pour faire en quelque sorte un placement de produit et lui demander d'acheter un certain nombre d'exemplaires en échange. Ça ne se fera pas en pratique, mais j'ai comparé les deux, le Dorvaux et ce qu'a écrit Baudelaire. Il l'écrit mieux, évidemment, mais il pompe carrément dans ses ouvrages médicaux et d'autres.
Ouais, c'est un peu ça qu'on retrouve dans ces écrits stupéfiants, Cécile Guilbert, parce que il y a des échos d'un texte à l'autre, non pas des expériences complètement isolées, mais des clins d'œil, non pas parce que il se copie, mais plutôt parce qu'il y a cette recherche de la même expérience. On lit l'autre et on voit comment ça se pratique.
Alors oui, mais il faut bien voir aussi une chose, c'est que dans la littérature des drogues, moi j'ai pas voulu du tout faire un livre chronologique, si vous voulez, qui serait parti de l'Antiquité jusqu'à nos jours. En fait, j'ai pensé que c'était beaucoup plus pertinent de classer les textes chronologiquement à l'intérieur des différents types de drogues. Parce qu'en fait, on pense que les drogues procurent tel ou tel effet, mais en fait, il y a autant de réactions que d'individus. Et pour des singularités artistiques, c'est très intéressant de voir que l'absorption de telle substance, littérairement, dans l'expression subjective, va pas donner la même chose. Alors, classer les drogues ainsi, ça permet déjà d'isoler quelles sont les familles des drogues et qu'elles produisent pas du tout la même chose. Et grosse découverte que je fais en faisant ce livre, c'est que je découvre que certaines drogues... implique certains genres littéraires, c'est-à-dire par exemple, je vous donne un exemple, l'opium, les fumeries d'opium, l'Orient, l'exotisme de l'Indochine, les fumeries d'opium des bordels et des ports français où il y a quasiment un tiers des officiers de marine qui sont opiomanes en fait parce qu'ils vont en Indochine, que l'Indochine on peut se procurer librement de l'opium, etc. Tout ce dieu opium, ce facteur de rêve, la noire idole, enfin la drogue reine et la drogue suprême littéraire, c'est l'opium, de la fumerie, de ce rituel exotique. Etc. Ça provoque beaucoup de poésie, beaucoup de lyrisme, beaucoup... Vous prenez les morphinomanes, eux, ils écrivent des trucs où ils racontent, un peu comme Thomas Quincey d'ailleurs, où ils racontent comment ils sont accros, ils comptent leur dose, ils écrivent tous les jours, et ils souffrent, et ils se rendent compte qu'ils sont prisonniers du produit. Ceux qui écriront sur les psychostimulants, plus tard, mais même la cocaïne dans les années 20, eh ben, ils n'écrivent pas grand-chose, parce qu'en fait, ils sont tellement speed qu'ils écrivent, ils vivent, ils n'écrivent pas. Vous voyez, ça provoque des choses très différentes. C'est ça qui est très intéressant.
Oui, puis d'ailleurs, quand nous évoquions la littérature, mais alors là, sous forme de création artistique ou la littérature médicale, vous, Cécile Guilbert, vous avez fait le choix d'un plan qui serait celui d'un ouvrage médical, hein, parce qu'on a, alors, chapitre après chapitre, hein, l'opium, la morphine, l'héroïne, et donc, c'est pas la chronologie. C'est ça ça qui est très intéressant, hein, de voir que ces deux littératures-là se mêlent, sont proches.
Oui, j'ai pris une classification qui est un peu ancienne, qui était celle de Lewin, un pharmacologue allemand, mais parce qu'elle me semblait littérairement et poétiquement parlante, si vous voulez, quand vous dites il y a les euphorica, et ben les euphorica, c'est effectivement le pavot, l'opium, ses dérivés qui sont la morphine et l'héroïne. Quand vous prenez les fantastica, c'est-à-dire ce qu'on appelle les drogues hallucinogènes, et ben vous avez le hashish, qui est une énorme, qui est la drogue reine en fait des fantastica, et puis après vous aurez au XXe siècle toutes les drogues hallucinogènes, style LSD, etc. Et à chaque fois, c'est où il y a des plantes qui vont être dérivées par la chimie ou des drogues purement chimiques.
Avec ici la chronologie des drogues hein, qui se mêle à cette histoire-là, des liens entre les artistes et la drogue. On voit bien qu'il y a des drogues. Alors, à la mode, ça c'est une chose, et puis surtout disponibles, d'autres ne le sont pas encore.
Oui, il y a une chronologie parce que l'histoire, on va dire, commence avec l'opium, qui était connu depuis très très longtemps, avec deux modes de prise de cet opium, soit fumé, les fumeries d'opium, soit mangé ou ingéré, comme c'est souvent le cas au XIXe siècle. Et puis, au fur et à mesure, la pharmacie et la chimie précisent les principes actifs. Et donc, il va y avoir la découverte des principes actifs de l'opium, donc la morphine, le premier, en 1817, quelque chose comme ça, suivront la codéine, il y aura également la synthèse de l'héroïne, donc tout ça c'est dérivé de l'opium, mais c'est beaucoup plus violent que l'opium lui-même qui mélange des tas de produits. Puis il viendra après les feuilles de coca et la cocaïne.
Et d'ailleurs, ce qui est amusant aussi dans cette affaire médicale et scientifique des drogues, c'est qu'en fait, ils tâtonnent pas mal, les scientifiques. Parce que, par exemple, l'héroïne, qui vient en fait du terme allemand « héroïsch », qui veut dire « énergique ». En fait, ils s'imaginent que l'héroïne, ça va être une sorte de psychostimulant. En fait, pas du tout. Et alors, ils cafouillent et ils font vraiment des grosses bêtises. Parce que, par exemple, Freud, qui découvre la cocaïne et qui est fou de la cocaïne et qui écrit des tas de trucs sur la cocaïne et qui est cocaïnomane à un moment, Freud, au début, il est jeune médecin. Et en fait, il a un ami qui est complètement dépendant de la morphine et il croit qu'il va pouvoir le sevrer avec de l'héroïne. Et comme dit je ne sais qui, c'est comme si vous voulez chasser le diable avec Belzébuth. Vous voyez ?
Ouais, c'est ça, ouais. Vous êtes alcoolique au whisky.
On va vous sevrer avec du gin, va, oui. Vous voyez. Bon.
Et tout ça, c'est cette quête éperdue des paradis artificiels.
Qu'éprouve-t-on ? Que voit-on ? Des choses merveilleuses, n'est-ce pas ? Des spectacles extraordinaires. Est-ce bien beau et bien terrible et bien dangereux ? Telles sont les questions ordinaires qu'adressent avec une curiosité mêlée de crainte les ignorants aux adeptes. Que les gens du monde et les ignorants curieux de connaître des jouissances exceptionnelles sachent donc bien qu'ils ne trouveront dans le haschich rien de miraculeux, absolument rien que le naturel excessif. Le cerveau et l'organisme sur lesquels opère le haschich ne donneront que leurs phénomènes ordinaires, individuels, augmenté, il est vrai, quant au nombre et à l'énergie, mais toujours fidèle à leur origine. L'homme n'échappera pas à la fatalité de son tempérament physique et moral. Le haschich sera, pour les impressions et les pensées familières de l'homme, un miroir grossissant, mais un pur miroir.
Jean-Louis Trintignant qui disait « Les paradis artificiels » de Charles Baudelaire. Il le lisait un siècle après la parution, hein, Les paradis artificiels, c'est 1860, là nous étions au début des années 1970. Et dans ce qu'on entend ici, il y a comme une critique, ou en tout cas une limite évidente donnée à ce qu'est cette drogue qu'il évoque, le haschich. Et je souligne, hein, parce qu'on n'est pas en train de faire l'apologie des drogues, comme une évidence, et de dire que les artistes eux-mêmes étaient conscients de ces limites.
Ah ben, en particulier Baudelaire, hein, quand on analyse finement et non pas en regardant de loin les paradis artificiels, il y a un jugement moral dessus. Il est négatif, en particulier vis-à-vis du haschich, très nettement. Et d'ailleurs, il avait écrit un article quelques années auparavant qui s'appelait « Le vin et le haschich », où il fait une comparaison entre le vin qui est une drogue par ailleurs, mais très commune en France à cette époque-là, et ne parlons pas de l'absinthe. Donc le haschich, et globalement il dit que le vin est, c'est positif, et en revanche le haschich est complètement négatif. On ne sait pas si c'est son jugement, ou si c'est aussi la morale de l'époque qui le rejoint, mais on sait que c'était quelqu'un qui était peu preneur de ces drogues. Il en prenait effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il avait la syphilis, parce qu'il avait des troubles de l'intestin, etc. Et l'opium était effectivement un médicament pour ça. Et il a essayé à plusieurs reprises d'en sortir. Donc il est très négatif vis-à-vis des drogues, même pour l'opium. Il ne pense pas que l'opium permet d'avancer poétiquement.
Oui, mais il faut dire une chose, c'est que je pense pas du tout que Baudelaire soit sensible à la morale de son époque. La preuve, c'est que bon, il va être lui-même déchiré par le procureur Pinard pour les fleurs du mal. Non, je pense simplement que il a pas connu l'opium fumé. Or, la volupté, la pénétration de sa vie, de sa propre vie intérieure, nécessite ces heures où on est allongé à fumer, où on rêve, et surtout quand l'opium est de bonne qualité. Il n'a connu que, encore une fois, que le laudanum, hein, ce truc liquide qu'on prend pour soulager des souffrances. Donc évidemment qu'il trouve pas ça du tout intéressant. Après tout, pourquoi prendre des drogues quand on a déjà sa propre fantasmagorie poétique d'artiste? C'est pas du tout quelqu'un qui va penser à la différence de beaucoup de jeunes ou d'adolescents, et ça c'est quelque chose de commun, que la drogue va lui donner plus de talent ou va lui procurer plus de vision. Il en a déjà, et c'est un grand poète.
Il y a quand même un aspect moral qu'avait bien souligné Flaubert, d'ailleurs, qui lui écrit
Flaubert, il crève d'envie d'en prendre.
Hein, oui, mais il a peur. Il a peur. Comme il dit, j'ai peur. on ne sait pas s'il en a pris, finalement, mais il avait, lui aussi, son petit stock. Mais Flaubert le critique, comme ça, gentiment, pour lui dire, vous exagérez quand même de dire que c'est pas bien, votre ouvrage se suffirait en lui-même, il n'a pas besoin de ces jugements. Ensuite, on peut effectivement débattre sur ce que voulait faire Baudelaire.
Ouais, dans sa démarche, Cécile.
Mais finalement, il n'en a pas tellement pris. Baudelaire, non. Il en a pris un petit peu au club des haschichins, et puis voilà, et puis il s'est fait son idée très vite, comme Balzac d'ailleurs.
Oui, c'est ça, hein, parce que il y a le consommateur, la consommatrice de drogue sur un temps long, vraiment complètement accro, et puis il y a les personnes qui essaient une fois et qui en font le récit. Et puis, pour essayer une fois, il n'y a qu'à frapper à une porte, celle du club des haschichins.
En revenant à moi, je vis la chambre pleine de gens vêtus de noir qui s'abordaient d'un air triste et se serraient la main avec une cordialité mélancolique, comme des personnes affligées d'une douleur commune. Il disait « Le temps est mort. Désormais, il n'y aura plus ni année, ni mois, ni heure. Le temps est mort et nous allons à son convoi. » Il est vrai qu'il était bien vieux, mais je ne m'attendais pas à cet événement. Il se portait à merveille pour son âge, ajouta une de ces personnes en deuil que je reconnus pour un peintre de mes amis. L'éternité était usée. « Il faut bien faire une fin, » reprit une autre. « Grand Dieu, » m'écriai-je frappé d'une idée subite, « s'il n'y a plus de temps, quand pourra-t-il être 11 heures ?»« Jamais, » cria d'une voix tonnante Docus Carota, en me jetant son nez à la figure et en se montrant à moi sous son véritable aspect. « Jamais, il sera toujours 9 h 15. L'aiguille restera sur la minute où le temps a cessé d'être, » et tu auras pour supplice de venir regarder l'aiguille immobile et de retourner t'asseoir pour recommencer encore. Et cela jusqu'à ce que tu marches sur l'os de tes talons.
Il avait pris un truc. Hein. C'est Théophile Gautier, le club des haschichins. C'est ce texte qui paraît en 1846 dans la revue des Deux Mondes. C'est quoi ce club des haschichins? Qui nous le raconte? Allez-y, Thierry Lefebvre.
Écoutez, c'est... c'est moins que ce qu'on en dit. c'est un lieu, c'est un hôtel particulier qui se trouve sur l'île Saint-Louis, l'hôtel Pimodan, dans lequel s'installe donc en 45, quand ça se passe en pratique, 1845, Boissard, qui est un peintre de bonne qualité par ailleurs, et qui est, on va dire, un peu accro déjà au hashish. Et donc il fait des réceptions, multiples réceptions, il faut payer hein, pour ces réceptions.
Oui, 5 francs.
Oui, c'est ça.
Pas mal quand même. Hein.
C'est pas donné à l'époque.
Pas donné, 5 francs. C'est plus d'une journée de travail d'un ouvrier.
Oui, c'est du lourd. Hein. Et donc, il a un grand appartement, et donc il peut recevoir comme ça les gens. Et il est en contact avec un médecin qui s'appelle le docteur Moreau de Tours parce qu'il vient de Tours, et donc il est probablement fourni par ce Moreau de Tours pour faire des expériences donc sur le haschich, qui est le sujet de la thèse de Moreau de Tours. À côté, il y a un de ses grands amis qui est Théophile Gautier, qui a envie de participer à ces expériences. En fait, c'est trois personnes, le club des hachichins, c'est ces trois que je viens de citer, plus des invités, souvent ponctuels, comme il y aura Dumas, il y aura Balzac,
De la Croix,
Berlioz, Meissonnier, oui. Voilà. Quand on cherche les traces de l'impact de ces prises de haschich, hein, sous forme pâteuse, verte, etc., ça donne pas envie, mais bon. oui, allez-y.
Non, pardon. Allez-y.
Quand on analyse les traces, finalement, on en trouve très très peu. C'est Théophile Gautier qui, dans son conte fantastique, comme il savait en faire moult, s'exprimer là-dessus. Et un petit peu plus tard, effectivement, Baudelaire, mais qui n'évoquera pas particulièrement cette expérience, qui évoquera Thomas de Quincey en pratique.
Oui, puisque nous sommes dans une émission consacrée à l'histoire, il faut rappeler le contexte et de cet engouement pour le haschich, en fait, qui vient qui a commencé avec l'expédition de Bonaparte en Égypte, puisqu'en fait Bonaparte en Égypte déjà a failli être assassiné par quelqu'un qui était sous l'emprise du haschich. Donc il y a eu comme ça des interdictions de la France sur le haschich en Égypte, mais enfin ça n'a pas empêché le haschich de revenir. Et il faut aussi surtout parler, ce qui est fondamental, c'est-à-dire de la conquête de l'Algérie. Et en fait, toute cette partie du Maghreb commence à susciter une imagination orientaliste. Et quand je dis que Delacroix, par exemple, venait au club des Hachichins, Delacroix, on sait à quel point l'Orient a eu une importance dans son œuvre. Donc il y a tout ce contexte de cet imaginaire orientaliste qui pénètre la France à cause de cette conquête de certains pays, de ces expéditions, etc. Ça fascine parce qu'on se dit que peut-être qu'en prenant du haschich aussi, on va, et je pense que les écrivains vont outrer un peu cet imaginaire oriental ou voluptueux ou de ce qu'ils imaginent être l'Orient. Il y a comme ça cette compénétration d'un imaginaire dans la prise d'une substance. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'il faudrait pas croire que le haschich est fumé. Vous en avez parlé, monsieur, c'est du dawamesque, c'est-à-dire que c'est une confiture de haschich mêlée d'épices et de sucre qui se déguste comme ça à la petite cuillère. Et pour si quiconque a absorbé du haschich par la voie orale et ne l'a pas fumé saura que le haschich absorbé de cette façon a des effets qui sont démultipliés par rapport au fait de le fumer. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont ces visions, et je ne pense pas qu'elles soient exagérées, parce que fumer du haschich n'a jamais provoqué des effets aussi forts que ceux qu'on lit dans les textes de cette époque, qui est à cause de l'ingestion, de la haschichophagie, d'une certaine façon, de ces artistes.
Voilà, des space cakes, quoi. Enfin,
oui, non, mais exactement, les space cakes.
On cuisine
cakes,
avec, ici, et vous l'avez bien souligné, Cécile Gilbert, des grands mouvements littéraires, donc l'orientalisme, ce regard qui est porté vers un monde où le haschich est présent. On pourrait dire la même chose avec l'opium. Hein.
Exactement.
Pour utiliser un mot alors employé, l'exotisme. Mmh. Et donc l'exotisme qui conduit vers l'Asie. Il y a quelque chose aussi qui permet aux individus qui consomment ces drogues de vivre des expériences incroyables sans voyager beaucoup. Même s'ils voyagent. Hein. Flaubert a voyagé jusqu'en Égypte. Mais il y a de ça aussi. C'est cette idée du voyage qui est très à la mode au 19e siècle.
Oui, et puis quand on regarde, ça c'est très très important, le niveau esthétique de par exemple, bon, c'est plus le cas du haschich parce qu'après tout il s'agit qu'une simple confiture, mais par exemple le rituel de fumer de l'opium. Je veux dire, d'abord c'est un matériel ultra sophistiqué, hein, c'est pas juste une pipe et il faut peser, il y a des poids opium qui sont des sortes de sculptures voilà mystérieuses, il faut des baguettes, il faut des aiguilles, il faut percer, il faut récupérer le dross, il faut faire des tas de choses et il faut s'allonger, et il y a tous ces les objets déjà en soi sont une échappée vers l'imaginaire d'extrême oriental.
Et puis, alors, on associe les drogues aux artistes, et il faut aussi rappeler que ces drogues sont diffusées dans toute la société. C'est pas du tout la même consommation, mais on va les retrouver ailleurs. Et avec cette complexité du mot drogue qui couvre plein de réalités, du simple médicament qui soulage à la drogue ou le médicament qui devient addiction.
Oui, alors le mot drogue est ambigu, effectivement, puisque le mot existe depuis le Moyen-Âge, en pratique, et désigne les plantes séchées, tout simplement. Toute forme de plantes séchées, c'est plutôt au XXe siècle qu'on va utiliser ce terme pour stigmatiser les substances en question. Et ça vient typiquement des États-Unis. Et donc, les drogues, ben, elles sont présentes, elles circulent, elles sont présentes en pharmacie, beaucoup, puisqu'il n'y a pas de répression au sens de ce qu'il y aura au XXe siècle. On parle pas de stupéfiants, on parle pas de ces choses-là, on parle de substances vénéneuses. Ce qui est différent, une substance vénéneuse, c'est une substance dont on sait qu'elle peut avoir des effets négatifs. Et la loi de 1845, donc au moment où ont lieu les expériences du club des haschichiens, la loi de 45 est une loi sur les substances vénéneuses et elle porte en particulier sur l'arsenic, la strychnine, etc., qui sont des produits qui sont utilisés à des fins homicides, et on veut essayer de réprimer tout ça. Et on trouve parmi les substances cataloguées vénéneuses, évidemment, le haschich, l'opium et les produits dérivés du opium qu'on verra apparaître au cours du 19e siècle.
Parce que la drogue peut conduire à l'homicide.
Je l'aimais de toute mon âme, mais il m'a quitté sans savoir pourquoi. Il a brisé mon cœur de femme, et depuis je vais partout où l'on boit, dans toutes les maisons où l'on souffre. Je sors tous les soirs, espérant le voir, et le champagne emplit ma coupe. Quand je suis grise, je dis des bêtises, j'amuse les gigolos. Comme les copines, je me morfine, ça me rend tout rigolo. Je prends de la coco, ça trouble mon cerveau. L'esprit s'envole et chagrin s'enfuit au loin, je deviens folle. Hier au soir, comme tous les soirs précédents, je sablais encore le champagne lorsque j'aperçus mon ancien amant avec sa nouvelle compagne. L'orchestre jouait un brillant tango, dans ses bras il tenait sa belle, et moi sur la table j'ai pris un couteau, et ma vengeance fut cruelle. Oui,
fait grise, j'ai fait une bêtise, j'ai tué mon gigolo. Devant les copines, comme une coquine, dans le cœur j'y ai mis mon couteau. Donnez-moi de la coco pour troubler mon cerveau.
De l'histoire. Xavier Mauduit.
Sublimissime Fréhel, la coco en 1932 et les dangers de la drogue. Fréhel, excessive aussi, hein.
Ah oui.
Vous confirmez Thierry Lefebvre?
Ah oui, complètement. Oui, elle était intoxiquée.
Complètement. Avec ici Cécile Gilbert, ces évolutions de la drogue, on l'a bien dit, et dans vos écrits stupéfiants, vous classez les écrits par type de drogue. Alors la cocaïne, ça produit ce qu'on entend là.
Ah, excitantia. Alors c'est bizarre parce que le texte de Fréhel, quand elle dit je suis grise, moi ça me fait penser à ce qu'on appelait la fée grise, c'est-à-dire la morphine. Bah, je pense qu'elle était morphinomane et cocaïnomane. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines drogues qui se diffusent à certaines époques. Par exemple, on a beaucoup parlé du hashish au 19e. Au début du 20e siècle, impossible de trouver du hashish, il n'y en a plus. À part Théo Verlet, qui est un auteur que personne connaît, qui est le grand, voilà, le seul dans les années 10 qui écrit sur le hashish, il n'y a plus personne. C'est-à-dire qu'il y a des relais. Alors la morphine, explosion de la morphine à la fin du 19e siècle. C'est colossal. La morphine, c'est toujours aussi la même histoire. C'est-à-dire que c'est facile. Vous vous mettez dans un coin, vous avez une petite seringue qui est la seringue de Pravaz, vous vous faites un petit shoot de morphine, les femmes en ont dans leur sac à main, les hommes dans la poche de leur costume, et voilà, et c'est très facile à prendre. Il y a des drogues qui sont pas faciles à prendre. Quand vous voulez fumer de l'opium, évidemment, c'est pas facile. Donc, la morphine fait une explosion hallucinante dans les années de la de deuxième moitié du 19e siècle et surtout à la fin de siècle avec les décadents. Et là, on parle beaucoup de la morphine. Et puis, l'opium continue. Hein. Il y a beaucoup de fumeries. Il y a des centaines de fumeries d'opium à Paris. Le bateau Lavoir, Picasso, tous ces gens-là fument de l'opium. Montparnasse, Montmartre, il y a des fumeries d'opium. Donc, l'opium continue. Il va s'arrêter, en fait. L'opium, ça va s'arrêter, en fait, avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment la drogue de la Belle Époque. Et puis après, dans les années 20, il y a ce relais avec la cocaïne qui a été... Alors elle, inventée dans la deuxième moitié du 19e siècle aussi, mais bon, qu'il y a eu un petit peu un usage médical et puis il y a eu un usage militaire, parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que la cocaïne a été donnée sur le terrain de la guerre de sécession, par exemple, pour un peu doper les soldats, ce qu'on comprendra très bien par la suite, parce que ces excitants, ces trucs qui permettent aux soldats d'aller jour et nuit tenir, et comme on en voit d'ailleurs des soldats contemporains qui prennent des drogues, et les nazis qui vont faire toute l'offensive sur la France bourrés d'amphétamines, et ils dormiront plus, et tous les chars, il y a des bouquins passionnants sur les nazis et la drogue, ça c'est encore un grand sujet. Donc la cocaïne devient vraiment la coco des années folles, quoi. Les années 20 sont saturées de cocaïne. Et alors là, il y a à la fois, comme je vous l'ai dit, les écrivains qui prennent de la cocaïne n'écrivent pas là-dessus. En revanche, il y a toute une littérature qui fleurit, sensationnaliste, un peu comme pour la morphine aussi, où des journalistes ont l'impression de vivre dans un espèce de capharnaüm, de drogués, de décadents. Alors il y a toute une littérature moraliste, alors là pour le coup, qui se déchaîne. Les gens, c'est les types qui écrivent là-dessus, ils écrivent pas du tout sur les effets de la drogue, ils écrivent sur les mœurs. Voilà, c'est une littérature des mœurs, de ces mœurs dépravées, mais en même temps ça les fascine, et donc les gens se jettent là-dessus pour lire ça. Enfin, il y a une popularité de la littérature sur la coco qui est assez grande, et la morphine pareil. Mais ce que je vous dis, c'est que ça produit pas grand-chose en termes littéraires, parce qu'en fait les gens en prennent. Bon, il y a un peu Soupeau qui en parle dans des romans, c'est-à-dire qu'en fait il y a les écrivains qui parlent de leur propre expérience, et puis il y a les écrivains qui parlent de ces drogues en les mettant en scène dans des romans dont les protagonistes sont censés être des drogués. Et donc ça, c'est pas le même genre de littérature. C'est pas la littérature subjective de la drogue, c'est la littérature qui objective la drogue dans des romans.
Et puis avec cette drogue qui permet d'atteindre des paradis artificiels, et puis la drogue qui devient excitant dans le même temps. On est sur des démarches complètement différentes. C'est pour ça qu'il n'y a pas une histoire des artistes et de la drogue. C'est tellement lié à l'individu, à la création individuelle.
Personnellement, je pense qu'il faut bannir de son expression le terme « la drogue ». La drogue n'existe pas. Il y a des drogues qui provoquent des effets et, voilà, variables et qui ont voilà, des différentes caractéristiques, mais la drogue n'existe pas.
Et qu'en pensent les surréalistes ?
La drogue, certains surréalistes l'ont employée. Par exemple, les surréalistes de la rive gauche. Ceux de la rive droite, jamais. Il était interdit d'imaginer des choses grâce à des produits pharmaceutiques, disait Breton. Et il avait raison. Il fallait que notre imagination fournit exactement tout ce que nous disions. Notre imagination, non pas des médicaments ou des produits qu'on achète dans des sachets ou dans des flacons de pharmaciens. Sur la rive gauche, il y avait l'opium, un petit peu, pas beaucoup. De temps en temps, dans l'atelier de Desnos ou dans l'atelier de Malkin, qui lui habitait à côté de la rue Blomet et venait nous voir souvent, on fumait de l'opium. Moi, je n'ai jamais aimé ça. J'ai fait comme les copains, j'ai mis tiré sur le bambou, suivant l'expression de l'époque, mais ça me donnait plutôt des nausées au bout de quelques temps que ça ne m'inspirait des paysages ou des voyages imaginaires. Mais Desnos aimait bien, de temps en temps, quelques pipes, et Breton, qui le savait, le lui reprochait sévèrement. Il n'admettait pas que l'inspiration pût être produite par des moyens extérieurs. Il fallait la prendre et la puiser au fond de soi-même.
C'est intéressant ce que disait en 1977 Georges Neveu, dramaturge, scénariste et proche des surréalistes et notamment de Robert Desnos. C'est que pour les surréalistes, il y a une distance. Ils condamnent un peu la drogue. Hein.
Ah, beaucoup.
Ah oui, complètement. Et pour cause, ils viennent d'expériences médicales auparavant, que ce soit Breton, que ce soit Aragon, ils ont vu un petit peu ce qui se passait dans les hôpitaux. Et donc, ils sont très, très réticents par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'expérience. On a une ou deux informations sur Breton et le hashish ou des choses comme ça. Mais en revanche, ils mettent en place un dispositif pour aller au-delà de la réalité doit se suffire en lui-même. Donc l'écriture automatique, les rêves, les cadavres esquis, etc. Enfin, toute cette technique qui est mise en place et exposée dans le manifeste du surréalisme. Et Breton veillera, hein, Breton n'était pas pour rien le pape du surréalisme, il veillera à ce que ça soit respecté. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas eu des personnages intoxiqués autour du surréalisme. Alors le premier, celui qui est l'emblème en quelque sorte du surréalisme, c'est Jacques Vacher, qui mourra d'opium et qui sera cité en exemple de ce que doit devenir un écrivain, poète, artiste par André Breton. Et il y aura d'autres personnes qui vont s'agréger. Desnos qui consommait quand même pas mal, un petit peu plus que ce que dit Monsieur Neveu. Et évidemment Artaud et quelques autres, mais qui seront vite exclus ou mis de côté.
Oui, d'ailleurs, Breton est tellement opposé à la drogue qu'il ne reconnaîtra jamais que Jacques Vacher, le grand aspirateur du surréalisme, est mort d'une overdose. Il dira toujours que c'était un accident, un truc. Bon. Ils sont absolument opposés à la prise de drogue. Il y a effectivement l'exception Desnos dans les surréalistes, parce que Desnos prend des drogues. Il y a René Crevel aussi qui prend de la drogue. Et puis, ça se voit aussi, Aragon écrit des tas de textes opposés à ça. Drieu La Rochelle aussi, qui est un proche des surréalistes et un grand ami d'Aragon, déteste aussi la drogue et écrit des trucs très durs. Ceci étant, il met en scène dans un texte magnifique et qui est sans doute un des plus beaux textes des années... de ces années-là, son ami Jacques Rigaud, qui était cocaïnomane et un grand drogué, et dans Le Feu Follet, il met en scène justement toute la déchéance qui voit liée à la drogue à travers son ami Rigaud.
Parce que la déchéance, elle est présente, hein. Ça se constate.
Oui, parce qu'il y a l'héroïne aussi. Il y a très peu de choses, mais il y a quand même de l'héroïne qui circule dans les années 20 et 30 à Paris. Hein. Il y a la cocaïne, mais il y a aussi l'héroïne. Et donc l'héroïne, là, on commence à voir que c'est la drogue de la déchéance, en fait. Hein.
Et dans cette histoire-là, il y a le cas Artaud.
Monsieur le législateur de la loi de 1916, agrémentée du décret de juillet 1917 sur les stupéfiants, tu es un con. Ta loi ne sert qu'à embêter la pharmacie mondiale sans profit pour l'étiage toxicomanique de la nation. Parce que premièrement, le nombre des toxicomanes qui s'approvisionnent chez le pharmacien est infime. Deuxièmement, les vrais toxicomanes ne s'approvisionnent pas chez le pharmacien. Troisièmement, les toxicomanes qui s'approvisionnent chez le pharmacien sont tous des malades. Quatrièmement, le nombre des toxicomanes malades est infime par rapport à celui des toxicomanes voluptueux. Cinquièmement, la restriction pharmaceutique de la drogue ne généreront jamais les toxicomanes voluptueux et organisés. Sixièmement, il y aura toujours des fraudeurs. Septièmement, il y aura toujours des toxicomanes par vice de forme, par passion. Huitièmement, les toxicomanes malades ont sur la société un droit imprescriptible qui est celui qu'on leur foute la paix.
Lettre d'Antonin Artaud à Monsieur le législateur. Thierry Lefebvre, vous êtes l'auteur dans la pharmacopée d'Antonin Artaud, avec ici un personnage extraordinaire. Quel est le rapport d'Artaud à la drogue? Cette lettre-là, c'est 1916, vous l'écrivez au législateur. C'est un con.
La lettre est de 1925, hein, en pratique.
Voilà, elle est datée de 16.
Voilà. Donc, oui, c'est un personnage absolument extraordinaire qui souffle de troubles mentaux, on va dire les choses comme ça, parce que ça n'a jamais été bien identifié depuis son adolescence pratiquement, et qui par ailleurs a été diagnostiqué pour expliquer ses sautes d'humeur, ses accès de violence, le fait qu'il brûle sa bibliothèque, enfin bien plein de choses, qui a été expliqué par une notion qui était erronée, qui était ce qu'on appelait l'érédosyphilis. L'érédosyphilis, ça n'existe pas en pratique. On considérait que la syphilis pouvait être transmise par le père à son enfant ou à ses enfants, et que voilà, il y avait des tests pour ça, pour vérifier ça, pour vérifier s'il y avait le germe de la syphilis dans le sang. Donc il doit faire un faux positif, donc c'est à la fin de son adolescence, et à partir de là il va rentrer dans le milieu médical, c'est-à-dire qu'il va être traité pour sa syphilis. Et là, il va tout avoir, ce qui explique la déchéance qui sera la sienne à la fin de sa vie. Il va avoir du mercure, il va avoir de l'arsenic, il va avoir tous les produits qui étaient utilisés à l'époque et qui étaient inefficaces jusqu'à l'apparition des antibiotiques après la Seconde Guerre mondiale, qui vont évidemment causer des dysfonctionnements multiples chez cet homme qui souffre non seulement à cause de sa pathologie mentale, mais également du fait probablement des injections multiples qu'il reçoit du fait de cette pseudo-érédo-syphilis. Et pour moins souffrir, il va demander, dit-il, hein, ça c'est son témoignage, à l'occasion d'un séjour dans une maison de santé, il va demander à ce qu'on lui fournisse du laudanum de Sydenham, qui est donc ce fameux produit dont on a parlé tout à l'heure. Et il va devenir véritablement accro à ce laudanum de Sydenham. Et donc la lettre qu'on a entendue, qui date donc de 1925 et qui paraît dans L'Ombilique des Limbes, son premier ouvrage, est une lettre qui n'est pas inspirée directement par la loi de 1916 qu'il évoque dans son texte, mais justement par un texte de Jean-Pierre Liozu, qui était un journaliste, écrivain mineur, et qui fait une série de textes dans Comédia sur la cocaïne, sur les dangers de la cocaïne. Et dans un de ces textes, il dit globalement, je résume, les malades, il faut pas les laisser prendre ces produits-là, c'est le médecin qui a le pouvoir sur eux, c'est pas parce qu'ils se plaignent, parce qu'ils souffrent, qu'on doit leur donner, par exemple, de l'opium ou des dérivés de l'opium. Donc, Artaud va reprendre, probablement avec l'aide de Desnos, mais ça c'est pas prouvé, va reprendre cette pratiquement citation de Liozu, il va construire le texte autour de ça pour dénoncer la loi de 1916 qu'il ne devait pas bien connaître, puisque de toute façon le laudanum de Sydenham n'était pas classé comme stupéfiant. C'est ça le paradoxe. Je pense qu'il ne le sait pas lui-même, en tout cas dans les le côté administratif, il ne sera classé stupéfiant qu'en 1930, avec un décret de 1930. Ce qui fait que jusqu'en 1930, eh bien, il vit avec son laudanum en essayant d'avoir des prescriptions, des ordonnances probablement falsifiées, enfin, toutes les techniques courantes à l'époque. Et à partir de 1930, il a de plus en plus de difficultés à se procurer le laudanum, ce qui explique probablement l'escalade qu'il va subir avant ses internements.
Cécile Guilbert, dans le cas d'Antonin Artaud, on a ici un personnage qui est drogué, parce que drogué par les médecins très jeunes, et puis qui se lance dans la création, et quelle création, c'est fascinant. Tandis que la plupart de celles et ceux que vous nous présentez dans ces écrits stupéfiants, ce sont des artistes qui, à un moment de leur création, se disent « on va explorer peut-être ce champ qui va éventuellement nous conduire vers un paradis artificiel ».
Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, bon, dans cette anthologie, il y a 220 auteurs. 220 auteurs, vous imaginez bien, d'abord, il n'y a pas que des Français, il y a des Allemands, il y a des Russes, parce qu'on n'a pas parlé, on n'a pas le temps, évidemment, mais je veux dire, quelqu'un comme Bulgakov, médecin, et donc lui aussi, il tombe dans la morphinomanie, il a écrit un livre qui s'appelle Morphine, il sait très bien quels sont les effets de la cocaïne, il en prend aussi. Alors bon, il y a des Tchèques, il y a l'Europe centrale, il y a les États-Unis, enfin bon, c'est un continent gigantesque. Mais il y a toujours, si vous voulez, les écrivains qui écrivent sur leur propre expérience personnelle d'une drogue qu'ils prennent pour différentes raisons, qui sont ou récréatives ou médicales, et puis il y a tous les écrivains qui écrivent sur les personnages qui sont drogués dans leurs livres, avec des effets souvent fantaisistes qu'ils leur attribuent. Par exemple, j'adore le cas d'Edgar Poe, si vous voulez, il faut absolument parler du cas d'Edgar Poe, parce que Edgar Poe, qui était le plus grand alcoolique, sans doute, de tous les écrivains, il met en scène l'opium dans ses histoires fantastiques, mais en fait, il attribue à l'opium, l'opium devient un opérateur du surnaturel, en fait. On n'est plus du tout dans les effets de la pharmacopée, on est dans une espèce de substance dont il s'empare pour décrire des phénomènes qui sont à la fois des gens qui vont dans d'autres mondes, qui reviennent d'arrière-monde, etc., qui sont dans le surnaturel. Donc ça, c'est très intéressant, c'est un usage littéraire d'une drogue complètement imaginaire, en fait.
Oui, d'autant qu'il consommait pas d'opium.
Il n'a jamais consommé d'opium de sa vie. On dit qu'il a pris une fois du laudanum, voilà. Mais c'est tout. Il buvait. Et sans arrêt, il y aura cette opposition des défenseurs des drogues qui disent « Mais qu'est-ce que vous nous embêtez ?» Claude Farrère, le grand opiomane, il dira « Mais qu'est-ce que vous nous embêtez à vouloir nous empêcher de prendre puisque de toute façon, il y a l'alcool. Et l'alcool, c'est une drogue, tout le monde le sait. » Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que ces débats viennent jusqu'à aujourd'hui par rapport au hashish, est-ce que le tabac, c'est une drogue aussi là, bon, vous voyez.
Et puis, il est possible d'écrire sur la drogue, bien sûr, mais pourquoi pas sur sa désintoxication.
Est-ce que vous voulez que je vous parle d'opium ? Eh bien, c'est embêtant de parler tout le temps de soi.
Mais vous êtes là pour ça.
Oui, ben c'est ce qui est terrible. Dans opium, évidemment, je me suis laissé aller, à ma manière, parce que j'ai toujours les guides en main. Mais dans opium, j'étais enfermé dans cette chambre de clinique. Je ne lisais presque rien, je ne lisais que ce que l'infirmière apportait dans ma chambre, des livres de Féval. Et j'avais le temps de m'entourer moi-même, de me regarder, de m'observer moi-même. Alors j'ai dit des choses sur la désintoxication et puis sur d'autres inquiétudes. Parce que tout est une intoxication. Quand on mange, c'est une intoxication. Quand on crée, tout est une intoxication. Alors le problème de désintoxication ne touchait pas seulement à l'opium, mais touchait à tout le reste.
Et voilà, c'est Jean Cocteau qui évoquait sa désintoxication. C'est intéressant de voir comment la drogue est un véritable sujet. On ne pouvait pas ne pas faire un clin d'œil à Cocteau, mais qui met en scène cela. Et c'est ça qui est fascinant avec les écrits sur la drogue. Et on peut le décliner de toute manière. On a parlé de Cocteau, d'Artaud, des surréalistes. Qu'est-ce que le grand jeu dans cette histoire ?
Le grand jeu, j'adore, c'est mes chouchous, parce qu'en fait, c'est le deuxième, si vous voulez, boys club de drogués, sauf que les hashishins qui expérimentent le hashish, c'est des adultes. Là, ce sont de très jeunes gens, du lycée de Reims, il y en a quatre, Roger Gilbert Lecomte, René Domal, Roger Mera et Roger Vaillant, qui se retrouvent au lycée de Reims, et à la différence des jeunes qui voudraient se droguer pour essayer, en fait, eux, ils ont eu un but très précis, c'est d'utiliser la drogue comme exploration de métaphysique expérimentale, c'est-à-dire de faire toute une série d'expériences pour voir ils essayent. Alors, ils utilisent, en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils utilisent des solvants, c'est-à-dire qu'ils respirent du tétrachlorure de carbone, et en fait, un peu comme l'éther, c'est une substance qui provoque des effets spécifiques. Alors, ils ont essayé tout. Hein. Ils ont fumé du hashish, de l'opium, etc. Mais avec les solvants, ils ont des sensations très spécifiques. Ils essayent de presque mourir pour voir si on arrive à perdre la conscience, à quel moment on arrive à perdre la conscience, etc. Et concurrencent les surréalistes. Ils sont un petit peu plus jeunes que les surréalistes. Et ils utilisent cette drogue à ses fins de connaissance. Pas de jouissance, pas récréative, de connaissance. Et c'est, de la part de très jeunes gens, c'est assez spécifique et c'est unique en fait dans l'histoire de la littérature des drogues, ce groupe du grand jeu qui va écrire des poèmes. Ils vont tous. Daumal va décrocher pour aller vers la pensée orientale. Vaillant va devenir héroïnomane et va se sevrer. Et Roger Gilbert Lecomte, le pauvre, c'est celui qui va vraiment ne jamais sortir de la drogue et en mourir très jeune.
Avec ce grand jeu, nous sommes en 1927. Hein,
c'est, voilà, les années 20.
Les années 20. Et ici, dans cette longue histoire de la drogue, on voit bien que c'est le reflet de la société. Il y a ces phénomènes de mode. Il y a les progrès de la chimie aussi, hein, avec les drogues de synthèse. Et puis, cette recherche perdu. Alors, de trouver une inspiration, mais pas tant que ça, et dans le cas d'Antonin Artaud, on voit bien qu'en fait c'est une quête pour aller mieux, et quand il ne trouve plus le laudanum, il imagine le champignon hallucinogène, il imagine autre chose, toujours.
Oui et non, hein. Il est très très attaché au laudanum.
Mais quand il n'en trouve plus,
il lui faut un autre produit, et les produits qu'on trouve sur le marché, parce que le paradoxe du laudanum, c'est qu'on peut le trouver qu'en pharmacie, parce que c'est une préparation officinale qui prend 2 semaines en général, et donc évidemment pour des trafiquants, c'est trop compliqué, donc on préfère la morphine, l'héroïne, la cocaïne, qui arrive par cargaison entière, par les ports, et donc il est très réticent par rapport à l'héroïne, en particulier, et particulièrement à la cocaïne, mais à un moment donné, il faut bien. Donc, dans son voyage en 1936 au Mexique, il est confronté à l'absence de laudanum. Il n'arrive pas à s'en procurer, malgré tous ses subterfuges, malgré les aides des uns et des autres, et il finit par prendre de l'héroïne. C'est probablement sa première prise à tester d'héroïne. Et il en est profondément dégoûté. Il raconte ça dans son récit où il jette l'héroïne pour ensuite rejoindre les Indiens pour participer au rite du peyote, et qu'il ne prendra qu'une fois, soit dit en passant.
Ouais, parce qu'on voit là qu'avec Antonin Artaud, on est vraiment sur un cas particulier de la drogue, avec un personnage qui est intimement lié à la drogue. Pour certains, c'est le cas. Cécile Guilbert, avec tous ces auteurs, ces autrices que vous croisez. On l'a bien dit, c'est anthologie, on peut pas citer tous les noms aujourd'hui, mais je sais, je reçois les messages des auditeurs, des auditrices, et on sent que tout le monde a une expérience personnelle, non pas avec la drogue, mais de lecture à la drogue. Et c'est vraiment fascinant. Est-ce que la drogue permet la création, en fait? Est-ce que ils n'en reviennent pas tous un peu déçus?
Non, pas du tout. Regardez, vous prenez le plus grand écrivain de tous les temps sur la drogue, qui est Henri Michaud. Henri Michaud ne prenait pas de la drogue pour ni s'enivrer, ni pour. Il a pris de la drogue pour explorer d'autres mondes, d'autres façons, et observer sur lui-même ce que ça lui faisait. On n'a pas parlé des expérimentateurs, mais je veux dire, dans les années, il y a des pionniers. Walter Benjamin, par exemple, est un grand pionnier de l'expérimentation. Il écrit sur le hashish, il écrit sur d'autres drogues. Voilà, il y a des grands expérimentateurs comme Michaud et Walter Benjamin qui ne prennent pas ça pour se droguer ou pour au sens récréatif ni même médical. Simplement, la connaissance, la passion de la connaissance est quelque chose qui va venir encore plus fort avec les drogues psychédéliques qui se prêtent particulièrement à ce type de protocole d'auto-observation. Et c'est fascinant, et je ne pense pas que c'est une désillusion. Au contraire, c'est l'ouverture d'un champ de conscience qui devrait être peut-être autorisé, surtout sur les drogues psychédéliques qui ne provoquent ni effet létal ni dépendance.
Thierry Leflair.
Oui, effectivement, le cas d'Henri Michaud est tout à fait caractéristique. Ce qu'il faut signaler aussi, c'est qu'à partir des années 30, il va y avoir une nouvelle drogue qui va arriver, ce sont les amphétamines, avec la benzédrine et d'autres. Et que là, ça va avoir un impact sur la création, parce que n'importe qui a consommé des amphétamines sait qu'il y a un bouillonnement, une envie de produire à très grande vitesse. Ça va être couplé d'ailleurs avec la machine à écrire.
Bah oui, Kerouac sur la route.
Kerouac, etc. Voilà.
Voilà, je suis obligé de vous sevrer maintenant. On arrive à la fin de l'émission. Excellent. Merci à Cécile Guilbert, hein, ses écrits stupéfiants. On les retrouve dans la collection Bouquins, et Thierry Lefebvre dans la Pharmacopée et d'Antonin Artaud. Cécile Guilbert, vous nous le disiez, hein, le haschich au 19e siècle disparaît au début du 20e siècle. On n'en trouve plus. On le sait bien qu'aujourd'hui, on en trouve partout.
Le haschich fait partie de notre culture. Moi, je fume le haschich.
C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Riyad Kera avec aujourd'hui la technique Jean-Guy Lamège, émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Maël, Vincent Randonnier, Tom Hundenstock et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire à retrouver à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.